31 mai 1986, je voulais vous demander simplement ce que c'est, ce que ça peut être encore pour vous, ce livre singulier, étrange, phénoménal que sont les chants de Maldoror. Est-ce que c'est un livre avec lequel vous avez un rapport régulier? Est-ce que c'est un livre qui est toujours là dans votre vie, dans votre tête?
Je crois que j'en ai plusieurs exemplaires dans ma bibliothèque. Ce n'est pas toujours le cas pour tout ce qu'on a. J'ai plusieurs exemplaires de Baudelaire aussi. Bon. Mais je crois que c'est étrange, c'est vrai. Mais si on pense à une certaine lignée, qui est justement celle de Baudelaire, ça paraît moins étrange. Et quand j'ai lu L'autre amant, au fond, c'est un petit peu la suite de ma lecture de Baudelaire. J'étais assez jeune, même très jeune quand j'ai lu Baudelaire, et j'avais été un petit peu, disons, épaté quand je suis tombée sur Une charogne ou Les litanies de Satan. Alors ça, j'avais 12 ou 13 ans, et ça m'a paru quelque chose de vraiment étonnant. Et on ne sortait pas, évidemment, au lycée de Ronsard et de quelques autres classiques, mais j'avais surtout un professeur de lettres qui adorait Ronsard, là, une espèce de joliesse, et qui le tirait sur la joliesse. Ce n'est pas toujours le cas, mais elle le tirait là-dessus. Alors donc, je trouve Baudelaire, c'est autre chose. Alors quand j'ai lu L'autre amant, du reste, je m'agace de lire L'autre amant.
Oui.
Beaucoup. Parce qu'en fait, l'auteur, c'est Isidore Ducasse. Donc, disons, quand j'ai découvert Isidore Ducasse, c'était un peu la suite. Et ce qui me plaisait, c'est d'une part la période, la rhétorique, ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est quelque chose que je n'ai pas trouvé chez Baudelaire, cette espèce de grande envolée, de grande période, de phrases. Du reste, il s'excuse parfois de faire des phrases trop longues. Et en même temps, la charogne, je suis sale, les poux me rongent, les poux, le bordel, tout ça, c'est l'espèce de grande fresque dans la mer où Maldoror va finir par faire l'amour avec une femelle requin, tout ça, bon, c'était pas très étonnant pour moi. Venant de ce que je venais de lire, je trouvais que c'était dans...
Et vous l'avez lu très jeune aussi?
Je dois l'avoir lu assez jeune, oui. Je ne sais pas comment, mais je dois l'avoir lu assez jeune. Et... Mais vous croyez que c'est un inconnu, Maldoror, de 100 ans? Ducasse, de 100 ans? Je dis Maldoror, il reste, c'est un lapsus qui est intéressant, ça prouve que c'est l'écrivain vraiment... Le livre sans auteur, presque. C'est ça, du reste, qui est maintenant, pour moi, quelque chose d'extraordinaire. Mais vous trouvez que c'était quelqu'un de complètement inconnu?
On sait maintenant qu'il n'était pas complètement inconnu, qu'il a vécu, participé à un petit milieu de jeunes gens actifs dans le monde littéraire à son époque.
Moi, je crois qu'il était repéré. Parce que quand je vois... Il y a très très peu de lettres de Ducasse. Il en reste, je sais pas, 7-8, je n'ai pas compté, mais il en reste très peu. Mais dans celles qui restent, il y en a deux, si j'en crois les notes en bas de page, qui se trouvaient dans l'exemplaire original des Chants de Maldoror, acheté par Poulet Malassis, et qui en plus, c'était comme tout bibliophile, procurait deux lettres d'Isidore Ducasse et les avait mis dans cet exemplaire.
Alors, et Poulet Malassis était l'éditeur de...
Baudelaire. Bon, donc, il était tout de même repéré. D'autre part, quand on lit les poésies... Moi, j'ai pas de théorie, vous savez, sur les poésies. L'espèce de dichotomie qu'on fait quelquefois entre les chants et les poésies, ou d'autres qui disent au contraire que les poésies sont les chants et les chants les poésies. Bon, j'ai pas de théorie du tout, mais je me dis que ça donne des renseignements sur ce point très simple, c'est que il était tout à fait au fait de ce qui s'écrivait en son temps. C'est évident à lire les poésies. C'était un homme qui se tenait au courant. Un jeune homme, puisqu'il est mort à 24 ans. Alors maintenant, si vous me disiez ce qui est plus étonnant dans Isidore Ducasse, c'est justement qu'il n'y a pas d'Isidore Ducasse. On ne sait pas qui est Isidore Ducasse. Rien. Un portrait présumé du père. Pas de portrait d'Isidore Ducasse.
On en a trouvé un, semble-t-il.
On en trouve un périodiquement. Bon. On trouve aussi périodiquement au Mexique un guide qui a conduit Arto chez les Tarahumara.
Est-ce bien important?
Non, ça n'a plus d'importance parce qu'il a fait la preuve qu'il n'y avait pas besoin d'auteur pour qu'un livre existe et qu'il n'y avait pas besoin de biographie, surtout. Et moi, j'ai horreur des biographies. Vraiment une horreur profonde. Donc il n'y a pas besoin de biographie pour qu'un livre existe, pour qu'une œuvre existe. Et les chants de Mal d'Aurore existent sans la biographie de l'auteur. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que tout de même, les poésies les a fait paraître sous le nom d'Isidore Ducasse.
Et ça, après avoir pris un pseudonyme pour les chants de Mal d'Aurore, il reprend son nom.
Oui. Alors là, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être qu'Arto a écrit un texte sur l'autre amant. Et où il donne cette opposition, justement, entre l'autre amant et Ducasse, où l'autre amant ne serait pas pour rien dans la mort d'Isidore Ducasse. Et pourquoi est-ce que c'est Mal d'Aurore qui est déjà à lui seul un pseudonyme, presque? En écrivant les chants de Mal d'Aurore, n'importe quel auteur peut se passer de pseudonyme. Mais est-ce qu'il trouvait peut-être que le nom d'Isidore Ducasse avait quelque chose de trop près de la roture pour soutenir un titre comme Les Chants de Mal d'Aurore? Est-ce que c'est une sorte de canular aussi? Est-ce que ça redouble l'œuvre? Est-ce que ça la signe, justement, dans cette espèce, je ne veux pas dire d'emphase, mais il y a une sorte d'emphase tout de même, qui n'est pas pour me déplaire. Est-ce que c'est pas fait un peu pour ça? L'autre jour, voilà, je pensais, parce que vous m'aviez dit que vous me poserez des questions sur l'autre amant, et j'ai pensé mettre de côté une petite phrase que j'ai trouvée dans un texte d'Arto, qui n'est pas celui qu'il a écrit sur l'autre amant, mais une autre comme ça, et qui est ceci. Les chants de Mal d'Aurore sont écrits suivant l'un des secrets capitaux de la vie universelle. Sommet, 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 sommet. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça?
Mais c'est une phrase très, très énigmatique, avec cette espèce d'évidence des énigmes pour un livre qui lui-même apparaît comme une énorme énigme.
Et c'est peut-être en cela qu'il éclaire d'une certaine façon cette énigme. Une énigme peut éclairer une autre énigme.
C'est peut-être ce qui nous intéresse dans la littérature, dans la poésie, dans ce qu'elles ont de plus fort. Et venant vous voir pour parler de Ducasse, l'autre amant, Mal d'Aurore, je savais bien que... et pour moi, derrière ces trois noms, il y avait un quatrième nom qui était celui d'Arto, connaissant pour vous l'importance de cette autre œuvre immense et postérieure. Et très vite, vous avez cité Arto à propos de
Ducasse. Oui, parce qu'il y a tout de même ce texte étonnant qui s'appelle La lettre sur l'autre amant, qui est tout de même un texte absolument extraordinaire. Et en même temps, je pense qu'Antonin Arto connaissait l'autre amant, avait lu l'autre amant, mais ne le pratiquait pas autant qu'il avait pratiqué à une époque de sa vie, ou Nerval, ou Baudelaire, ou même Rimbaud, parce que tout de même des souvenirs de Rimbaud lui reviennent assez souvent. Mais je pense qu'il y avait quelque chose qui le touchait beaucoup plus, et chez Baudelaire, et chez Nerval, et qui moi aussi, d'une certaine façon, me touche énormément, parce qu'il y a une énigme, vous dites, dans l'autre amant, mais quelle énigme Baudelaire aussi, et quelle énigme Nerval. De toute façon, la poésie, c'est bien une énigme. Non?
Oui, et là, il y a un triangle, au moins, même plus, maintenant, on a quatre angles, et il y a d'autres angles à dessiner, sans doute. Baudelaire, Nerval, Lautréamont, Artaud, il y a une... Bon, peut-être Rimbaud qui occuperait un coin aussi de cette figure géométrique, de grandes œuvres dont chacune apparaît comme autre chose dans ce qu'il est convenu d'appeler la littérature.
Il y a quelque chose évidemment dans Rimbaud, dans l'œuvre de Rimbaud aussi, qui est proche au fond de ce phénomène qui est la disparition de l'auteur chez Lautréamont. L'auteur Rimbaud disparaît aussi d'une autre manière. Il disparaît très jeune. Lautréamont est mort à 24 ans. Il a écrit vraisemblablement Les Chants de Maldoror. C'était écrit lorsqu'il avait 20 ans. Rimbaud semble avoir été encore plus précoce. Et il a cessé guère avant la date où Lautréamont meurt. Bon. Et, avant 24 ans, Rimbaud n'écrit plus. Et donc, il disparaît. L'auteur disparaît. Et ça, c'est tout de même quelque chose d'assez surprenant quand un auteur n'existe pas du tout et que son œuvre continue à exister malgré lui. Pour Rimbaud, bon, il y a tout de même des repères biographiques à cause de ses relations dans le milieu littéraire qui sont plus connues que celles que pouvait avoir Lautréamont. Et même en raison de son activité presque commerciale ensuite, qui a été recherchée, repérée, donc on biographie Rimbaud, hélas. Tandis que Lautréamont, on a beau faire, il y a des petites bribes, hein, absolument, mais c'est tout.
Oui, on arrive à suivre sa trace, mais on n'arrive pas à savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. On ne sait rien de lui, on ne sait vraiment
strictement
pas.
Strictement rien. Et c'est la chose pour moi qui est la plus extraordinaire dans les chants de Maldoror.